मेरा नाम है मुला देवी।
Je m'appelle Moula Devi. Je me souviens qu'à cette époque, la reddition a eu lieu dans la cour d'une grande école de Bint. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Le superintendant Chaturvedi était assis d'un côté et Arjun Singh, le ministre en chef du Madhya Pradesh, de l'autre. Il était venu spécialement en hélicoptère. Ma fille, Phoolan Devi a présenté son fusil rafale à Arjun Singh. C'est de ça dont je me souviens. À cette époque, Indira Gandhi était le premier ministre. Le superintendant Rajendra Chaturvedi nous a transférés jusqu'à Bint. Puis une fois la reddition terminée, nous avons été transportés à Gwalior. Phoolan et les autres bandits étaient sous haute surveillance car la police avait peur qu'elle se fasse tuer ou enlever. Et nous, on nous a fourgués dans une pension gratuite, dans un temple. Quatre policiers étaient là pour notre protection.
Moi, Phoolan Devi, de la geôle au Parlement.
Je m'appelle Mouni Devi, j'ai 39 ans. J'avais 9 ans environ quand Phoolan Devi s'est rendue. Quand elle est entrée en prison, j'étais jeune, et après tant d'années d'absence de ma sœur, j'étais très heureuse de la retrouver enfin. Tous les jours, de 8h du matin à 5h du soir, la famille restait avec Phoolan. On avait à boire, à manger, du thé, du café, tout ce que nous voulions. Et pour moi, c'était un peu comme une fête. Un grand pique-nique. J'étais petite et j'avais enfin la chose la plus importante à mes yeux. C'était d'être avec ma sœur. Quand elle était dans la jungle, on priait chaque jour qu'elle ne soit pas tuée. Ma chère sœur était en vie et j'avais donc toutes les raisons de me réjouir.
J'ai rencontré Phoolan régulièrement et nous avons parlé de la prison à de nombreuses reprises.
Vijay Kranti.
Des journalistes du monde entier sont venus pour l'interviewer, écrire des articles sur elle. Et elle ne comprenait pas bien ce qu'ils lui voulaient, ce qu'elle devait leur dire, ce qu'ils attendaient d'elle, si c'était bien ou mal de parler avec eux. Et elle leur recevait tellement de visites, tellement de visiteurs qui lui apportaient des cadeaux, des choses de valeur et aussi beaucoup d'argent. Et cet argent, elle le redistribuait à sa famille.
Donc ces visites se sont poursuivies pendant un an. Et parfois la foule était si importante que les autorités ouvraient la porte principale. Ils présentaient Phoolan devant la foule et disaient, voilà, c'est Phoolan Devi. Vous vouliez la voir, maintenant vous la voyez. Mais malgré le fait que son quotidien soit bien rempli et parfois heureux, souvent elle traversait des moments de désespoir et demeurait triste, abattue. Elle était triste parce que régulièrement elle recevait des nouvelles de l'extérieur et tellement d'événements cruels se produisaient, et surtout en ce qui concerne les femmes qui continuaient à se faire violer, attaquer, elle en souffrait.
Pourquoi laissait-on des gens venir m'importuner, me regarder, me dévisager, et maintenant voulant m'épouser? L'homme était pour moi un démon. Il le serait toujours. Quand un journaliste essayait de me poser une question sur les tortures que m'avait infligées Shriram, je me fermais aussitôt. Ma bouche était close. Je lui demandais de s'en aller. Moi seule, c'est les tortures que j'ai subies. Moi seule, c'est comment on peut être à la fois morte et vivante. À l'âge où les jeunes femmes attendent patiemment que leur époux rentre à la maison, sagement accroupies devant le foyer, préparant la farine, cuisant les chapatis, moi j'étais une pierre qui marchait dans la jungle. Une pierre qui avançait dans la vie, sans ressentir d'émotion ni de remords. Je n'étais plus une femme. Une pierre ne peut pas se marier avec un homme lorsque c'est l'homme qui l'a faite pierre.
Les prisons indiennes n'ont pas vraiment la réputation d'être tendres avec les prisonniers. Le règlement est là pour ne pas être respecté. La façon dont on traite les prisonniers aurait besoin d'être humanisée sous beaucoup, beaucoup d'aspects, encore aujourd'hui. Mais c'était une prisonnière plus importante que l'administrateur de la prison. Des personnalités importantes venaient la voir d'un peu partout. Et elle était même devenue le sujet d'un film, l'héroïne de beaucoup d'histoires, beaucoup de chansons. Elle n'avait pas la possibilité, évidemment, de sortir, mais à l'intérieur, c'était la reine.
Elle était bien, elle était célèbre, tout le monde parlait d'elle. Elle a beaucoup fait pour sa communauté. Elle a beaucoup souffert. On le savait. Beaucoup de gens allaient la voir. Et je me suis dit que ça me plairait bien d'aller voir à quoi elle ressemblait. À quoi ressemblait sa tête.
Je n'avais
entendu que son nom. Je voulais la voir, c'est tout. Elle avait l'air sympa, normale, pas du tout effrayante. Comme une femme du village ordinaire. Elle portait un sari tout simple. Et non très traditionnel. On n'avait absolument pas l'impression qu'on regardait quelqu'un d'extraordinaire. Mais on était content de voir quelqu'un de notre caste qui avait réussi à faire quelque chose. J'étais allée la rencontrer en 1984 et mon mari m'a repérée et aimée à la première rencontre. J'étais venue avec ma tante. Il a voulu rencontrer mes parents et c'est la seule fois où nous nous sommes revus avant le mariage. Je me suis mariée le 5 décembre 1987 avec son frère. Je suis Shubha, la femme de Shiv Narayan et Fulan et ma belle-sœur.
Je m'appelle Shiv Narayan. Je suis le vrai frère de Fulan Devi. Aujourd'hui, je travaille comme agent de police dans la ville de Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Mon souvenir, c'est que nous vivions juste dans la zone de police à côté de la prison. Et dès que j'avais fini ce que j'avais à faire, je traversais la rue et je filais à la prison. Je prenais mes repas avec Poulan, qui, en tant que prisonnière privilégiée, avait droit à des œufs, du beurre. Elle ne gardait pas sa ration que pour elle, mais elle la partageait avec nous. Pour moi, c'était un festin et ça me rendait très heureux.
Lentement, les choses ont changé. Le chef de l'État du Madhya Pradesh est parti. Au fur et à mesure, la curiosité des gens pour Fulan a commencé à faiblir. De moins en moins d'articles de journaux ont paru à son sujet. L'administration pénitentiaire a pris conscience de sa vulnérabilité. Son influence a commencé à perdre du terrain. Et dans les prisons, il n'était pas rare que des prisonniers soient victimes de conflits internes, de rivalités. On sait que quand l'administration n'aimait pas un détenu, ils pouvaient mobiliser des prisonniers pour l'assassiner. Et donc, elle avait peur aussi de ça.
Je suis entrée à la prison de Gwalior en février 1983. Le jour où Indira Gandhi a été assassinée, j'ai pleuré. Je la respectais profondément. Elle avait fait beaucoup pour moi et ma famille. Et j'étais sûre que personne ne respecterait plus les accords que j'avais passés avec son gouvernement. Les autres dacoïtes ricanaient. C'est fini, Poulan. Fini le camp de vacances, Indira. Le directeur de la prison était corrompu jusqu'à l'os. Il mêlait des femmes folles aux détenus de droit commun et les laissait mourir comme des chiennes. Leur corps était rongé par les rats avant que l'on daigne s'en occuper. Tout le temps que j'ai passé là-bas, je me suis battue comme un animal sauvage contre la saleté, la lâcheté, la corruption. J'ai fait 2 grèves de la faim, allant jusqu'à la limite de mes forces. J'ai connu quelques prisonnières politiques qui m'ont promis de se battre pour moi quand elles sortiraient de prison. Mais je ne comprenais pas le mot « politique ». Je n'avais aucune idée de ce qu'était le monde extérieur.
Je dois dire que c'était vraiment très très difficile. On nous battait tout le temps.
Fulan Devi.
Et moi, mon moyen de protester, c'était de demander à ma sœur d'écrire des lettres. Et ma sœur écrivait des lettres qu'elle envoyait aux journaux. Chaque fois qu'une lettre comme celle-ci sortait, on me battait encore plus. On m'a enfermée avec des femmes folles. Et c'était vraiment très, très angoissant pour moi. Parce que je savais que les autres bandits, les hommes, ils avaient un traitement très particulier, ils avaient des cellules spéciales et on les traitait d'une manière très bien.
Most other prisoners were released much before her.
La plupart des autres bandits ont été relâchés bien avant elle. Et Poulan, elle, a pris tellement d'années. C'est vraiment étrange. Il y avait eu un accord avec le gouvernement pour qu'elle soit relâchée au bout de 8 ans. Et elle a pris 11 ans. Mais elle a refusé de se présenter devant la cour. Elle a refusé de coopérer avec la justice depuis sa prison. Elle pensait que si elle était transférée pour une audience en Uttar Pradesh, les Thakurs ou leurs hommes de main allaient la tuer. Cette peur d'être assassinée était si forte en elle qu'elle a refusé de rejoindre cet état. Toutes les affaires sont restées en suspens jusqu'au dernier jour. Et je soupçonne aussi ceux qu'elle a contactés pour avoir des conseils juridiques d'avoir été pour le moins inefficaces.
Je n'avais toujours pas été jugée. Tous les autres dacoïtes étaient sortis, libérés au bout de 5 ou 6 ans. Mais Poulan Devi était oubliée. Même en prison, une femme doit attendre et se taire. La Cour suprême ne m'a rien accordé d'autre que le droit d'aller me faire soigner à Delhi. La nuit de mon départ, les folles de Galior étaient tristes. Depuis longtemps, je ne portais plus d'uniforme et je savais m'asseoir comme tout le monde. Dans le train, rien ne me distinguait des autres, dans mon sari rouge. Personne ne me reconnaissait. J'ai pleuré en silence pendant le trajet. J'avais la gorge serrée. Les prisonniers de Galior m'avaient dit que Tihar était une prison dont on ne sortait pas. Et puis il y avait cette opération à subir. Le train m'éloignait de Galior et de ma famille, de ma mère, de mes sœurs. J'ignorais si j'allais les revoir et dans combien d'années. Soudain, dans le train, un mendiant s'est mis à chanter un chant religieux. La déesse Durga t'aidera à traverser le courant. Mon cœur est redevenu léger. Je lui ai donné 50 roupies pour qu'il continue. Et il a repris son chant jusqu'à ce que le train arrive à Delhi.
Kiran Bedi.
J'ai rencontré Poulan Devi en tant que prisonnière. J'étais directrice de la prison Tihar à Delhi. C'est à cette époque que je l'ai rencontrée directement et que j'ai négocié avec elle. Non pas travailler avec elle, mais négocier, car on a à négocier avec les prisonniers et voir ce qu'on peut faire pour eux. À cette époque, c'était déjà un personnage public et politique et un leader pour sa caste et sa communauté. Elle avait conscience de cette place, elle avait cette posture de chef. Elle dégageait une colère intense. Elle était totalement illettrée. Mais le reste des prisonnières l'ont gentiment remise à sa place. Ils l'ont aidée à normaliser son comportement, à gérer ses colères. Et l'éducation dans ma prison s'appliquait à tous. Les 10 000 prisonniers allaient à l'école dans ma prison. Et ceux qui savaient écrire apprenaient aux autres. Poulan Devi a pour la première fois appris à lire et à écrire à l'intérieur de la prison. Elle a appris à se stabiliser et à devenir un des membres de la communauté. Au départ, elle était très sauvage. Elle n'arrivait pas à entrer en contact avec les autres. Mais graduellement, elle s'est fait des amis et a trouvé sa place dans la prison. Cet environnement structurant dans la prison a eu un impact très fort sur elle. À cette époque, ce que nous faisions dans cette prison de Tihar, aucune autre prison en Inde ne le faisait.
Mouni Devi.
Poulan Devi n'était pas vraiment orientée politiquement. Et elle n'était pas particulièrement intéressée par la politique. Ce sont des personnes comme Mulayam Singh, le chef du Samajwadi Party, et d'autres qui ont tenté de l'utiliser politiquement et de tirer avantage de sa personnalité. Elle, elle préférait l'action sociale. La première fois que des manifestations ont eu lieu en soutien à Pulan Devi, alors qu'elle était en prison, Mulayam Singh a été très surpris de voir une immense foule. Il s'est dit que si en tant que prisonnière elle attire autant la foule, la prendre dans son propre parti ne pouvait que lui profiter.
C'est en présence d'une foule de journalistes que Pulan Devi a été relâché après 11 ans d'emprisonnement à la suite d'une décision du gouvernement de l'Uttar Pradesh d'annuler les 47 procès en cours contre elle. Alors que les gens assistent au savoir-faire médiatique de Pulan Devi, on oublie Bemai, ce village où elle est censée avoir massacré sans pitié une vingtaine de personnes. Aujourd'hui même, une pétition déposée au tribunal par les villageois de Bemai menace sa liberté récemment acquise.
Je m'étais rendu le 12 février 1983. Le 21 février 1994, 11 années plus tard, la porte de la prison Tihar de Delhi s'est ouverte. J'étais libre, mais assignée à résidence, en liberté provisoire, sous la protection de la police. Et depuis, j'attends que la Cour suprême de l'État me rende ma liberté totale. Je ne suis plus le même être humain. Je ne suis plus l'enfant ignorante qui croyait que la terre s'arrêtait au bout de la rivière et que le soleil se noyait dans l'eau. Je ne suis plus l'animal sauvage qui se battait dans la jungle avec la férocité de Durga. Je ne me considère pas comme quelqu'un de bien, mais je ne suis pas une criminelle non plus. Je n'ai fait que rendre aux hommes ce qu'ils m'avaient fait subir.
My name is Vijay Kranti.
Je m'appelle Vijay Kranti, j'ai 65 ans, je suis journaliste, je vis à Delhi et j'ai eu le privilège dans ma vie de rencontrer et de côtoyer Pulan Devi régulièrement pendant plusieurs années. Immédiatement après sa sortie de la prison de Delhi, j'ai participé à l'élaboration de son autobiographie initiée par un éditeur de Paris. J'ai donc aidé Pulan à prendre les bonnes décisions pour ce contrat. Mais surtout, mon rôle a été de lui poser des questions dans sa langue maternelle, de transcrire son témoignage en anglais et de l'envoyer à l'éditeur en France. C'était très intéressant. Au tout début, elle ne comprenait pas très bien ce qu'était un livre. La deuxième fois que je l'ai rencontrée, je lui ai présenté un ouvrage que j'avais écrit sur le Dalai Lama et je lui ai expliqué, là, ce seront tes photos à la place du Dalai Lama et à la place de son histoire, ce sera ton histoire. Elle s'est enthousiasmée à l'idée de faire ce livre. Pour moi, ça a été une façon de mieux connaître la vie de cette femme et de remonter avec elle le fil de son histoire. Et je pense que ce travail a été pour elle l'occasion de revisiter sa propre vie, d'un endroit confortable où elle se sentait en sécurité. Un lien d'amitié s'est créé avec elle, dès le début, et ça a continué. Elle me respectait un peu comme un grand frère, et on s'appréciait beaucoup.
और याद करते हैं पुरानी बातों को कि समय देखो पता नहीं इंसान के ऊपर कब कैसा बदल जाए एक टाइम ऐसा था मेरी मां भी कहती है कि एक टाइम ऐसा था कि जब खाने के लिए तरसते थे और अगर पत्थर भी खा लेते वो भी पेट में हजम हो जाते थे आज रोटी हजम नहीं होती है बीमारी बीमारी बीमारी
C'est très très bizarre pour moi. Et je pense souvent à mon enfance passée dans un petit village. Et je pense à ces jours où on n'avait pas assez à manger. Et ma mère disait que même si on mangeait des pierres, on pouvait les digérer. Mais maintenant, je mange bien, j'ai droit à une bonne nourriture, mais je suis plutôt malade et je digère mal toutes ces bonnes choses. Et puisque moi, pendant mon enfance, je n'avais pas eu assez à manger, je pense beaucoup à nourrir les autres. Et donc, quand les gens viennent chez moi, je tiens à les faire manger.
De jour en jour, je voyais comment elle se dévouait aux autres. Elle avait beaucoup grandi.
Shiv Narayan Devi.
Je lui disais tout le temps qu'elle était devenue une sainte, qu'elle était maintenant comme Sai Baba Deshirdi. Parce qu'à l'époque de sa sortie de prison, elle a reçu tellement de signes de respect de la part de la société. Des personnalités publiques, des politiques ou des gens importants venaient la voir et lui apportaient des cadeaux, de l'argent, des écharpes. Et elle, quand elle sortait, elle redistribuait ce qu'elle avait reçu. Si elle croisait un pauvre, elle lui donnait une écharpe ou quelque chose.
Umed Singh venait souvent lui rendre visite à la prison de Gwalior, et comme il était venu régulièrement et qu'il apportait des cadeaux et des friandises, elle l'avait identifié et distingué de la foule. Il lui semblait que c'était quelqu'un de bien, et quand elle est arrivée à Delhi, à sa sortie de prison, elle savait bien qu'elle n'avait nulle part où aller. Sa famille était restée à Gwalior, et à Delhi, elle n'avait aucun soutien immédiat. Elle a trouvé opportun, plutôt que de tomber entre de mauvaises mains, de choisir Umed. Et Umed avait de l'argent aussi. Et très discrètement, ils sont allés au temple ensemble, et pour eux, c'était un mariage. Mais je doute qu'ils aient légalisé cette union dans des registres officiels. En fait, Umed était déjà marié et avait déjà un enfant à cette époque. Mais Poulan commençait à gagner de plus en plus d'argent et elle était courtisée par le monde politique. Donc, Umed a sans doute trouvé un intérêt à rester aux alentours. Ils ont vécu comme mari et femme jusqu'au dernier jour.
Je m'appelle Umed Singh. Je suis travailleur social. On avait d'abord monté une association sociale, Eklavya Sena, l'armée des Klavias, avant de faire de la politique. Et ça continue. C'est plus tard qu'elle a décidé de rejoindre le Samajwadi Party, le Parti Socialiste. L'armée des Klavias vient de la mythologie indienne, dans le Mahabharata. Il y avait un personnage appelé Eklavya d'origine tribale. C'était un pauvre garçon qui voulait s'instruire, mais ses basses castes n'avaient pas le droit à l'éducation. Mais Eklavya était déterminé et voulait devenir archer. Il décida d'apprendre par lui-même. Il devint le plus grand archer grâce à ses propres efforts. Et on lui coupa le pouce pour le punir. Si quelqu'un prive les basses castes de leur droit à l'éducation, notre association, l'armée des Klavias, est là pour les défendre. Aujourd'hui encore en Inde, tout le monde n'a pas droit à une éducation. Et même si on y arrive, on subit la discrimination plus tard au niveau de l'emploi. On est bloqué. Et ceux qui ont du pouvoir, de l'argent, des relations, passent devant. C'est comme si on leur coupait le pouce. Donc, nous aidons des jeunes défavorisés à trouver une place dans la société.
Je m'appelle Dimitri Friedman. J'ai rencontré Poulan Devi le 3 janvier 1996. Elle venait de terminer son autobiographie, « Moi, Poulan Devi, reine des bandits ». Elle sortait de prison, elle avait 33 ans. C'était encore une femme, une jeune femme. Elle n'était pas la mama qu'elle était devenue sur la fin de sa vie. Et cette rencontre, pour moi, était déterminante dans l'envie et dans la motivation d'écrire sur elle. J'étais chez elle depuis 8h du matin avec son confident et son traducteur, Vijay Kranti, et également avec un ami photographe. On avait rendez-vous à 8h du matin et à midi, elle n'était toujours pas arrivée. Tout le temps où j'étais chez elle, je voyais défiler, mais quasiment l'Inde entière chez elle. Des paysans qui apportaient des poulets, des œufs, un maj bengali avec les yeux faits au col, des ministres socialistes d'Uttar Pradesh, ben, tout un monde comme ça qui débarquait chez elle. On avait l'impression que chez elle c'était un caravansérail ou c'était la maison ouverte à tout le monde. 4 ou 5 heures après, j'ai entendu du bruit dans la rue comme des crissements de pneus. Donc je me penche par la fenêtre et je vois une jeep arrêtée avec des gardes armés de Kalachnikov et la porte s'ouvrir et un pied chaussé de femme sortir et Poulain Devi qui apparaît et qui arrive chez elle. Elle entre dans la pièce et elle commence à enfiler sur un pique-fiche des tickets de restaurant ou des choses comme ça, comme si c'était la chose la plus urgente à faire, alors que tout le monde voulait l'avoir, des ministres, des mages, des paysans. Elle avait un dog qui était énorme, qui était aussi haut qu'un lion, et qui se met à pisser partout dans le salon de joie. D'un coup, elle bondit sur lui et elle lui envoie un coup de poing dans la gueule et elle l'assomme à moitié. Alors, le mari de Poulain Devi arrive et libère le dog. Et moi, je me dis, oh là là, ça va être un pugilat redoutable dans le salon. Et finalement, le dog file la queue basse et retourne dans sa niche, dans sa cuisine. Poulain Devi s'arrête, lève la tête, me regarde et me salue à l'indienne, namasté. Comme je lui rends son salut, elle s'assoit en tailleur juste à côté et dit en hindi, on peut commencer l'interview. C'était assez théâtral, je dois l'avouer, comme arrivé.
Je suis vraiment une personne très simple et tout ce que je souhaite, c'est l'amitié des autres. Et si les gens m'accueillent avec amitié, je fais pareil. Avant, j'étais traitée comme les autres pauvres, comme une insecte. Mais maintenant, on commence à me respecter. Les gens viennent me voir et ils me traitent avec beaucoup de respect. Tandis qu'avant, les gens étaient vraiment très, très cruels avec moi. Lorsque je disais la vérité, lorsque je protestais, les gens me critiquaient, ils me battaient, ils me disaient que c'était le sort de la femme, que j'avais pas droit à protester, que je disais des mensonges, que c'était comme ça. Avant, dans mon village, on avait tellement peur du chef du village. J'osais à peine passer devant le chef du village. Et même, j'osais pas passer devant la police.
Alors évidemment, il y avait des passages de sa vie qui l'ennuyaient, dont elle ne voulait pas parler. Par exemple, les viols à répétition. Donc elle avait des formules très étonnantes pour caractériser ce qu'elle avait vécu, comme traduisait en anglais son confident, Vijay. Et des formules du style « ils se sont bien amusés avec moi ». Par contre, toute son enfance et ses rapports avec son père qu'elle adorait et à qui elle avait pardonné sa faiblesse, la faiblesse de son père qui avait été incapable de la défendre quand elle était enfant, ses rapports avec sa mère qui étaient extrêmement durs, ses rapports avec ses sœurs, tout ça, elle le racontait avec force, détail et beaucoup d'émotion, même si elle essayait de cacher son émotion. En fait, c'était quelqu'un qui pouvait être très, très ému. Elle était dure, elle avait un visage dur, mais à l'intérieur, comme on dit, sous l'écorce, c'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert et qui avait de l'empathie pour ceux qu'elle aimait.
J'ai surtout beaucoup appris ces dernières années. Mon expérience en prison m'a appris beaucoup de choses. J'ai vécu énormément ces dernières années. Et ce que je sais maintenant, c'est que tout le monde a droit à la vie, que ce soit des gens pauvres, que ce soit des gens riches, que ce soit des Dalits. Le premier droit auquel on a droit, c'est la vie. Et je répète que la vie à Delhi, c'est étrange. Moi qui avais tellement peur des policiers, maintenant la police me protège. Et il y a des ministres, des politiciens qui viennent me voir et qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Ça, je trouve étrange.
Elle considérait Mulayam Singh un peu comme un père, mais il ne l'a pas respecté. Il l'a utilisé pour obtenir des voix dans la circonscription de Mirzapur, où elle a fait campagne. Poulain Devi trouvait qu'à Mirzapur, les personnes de sa communauté étaient opprimées et exploitées par les riches, et elle voulait faire beaucoup de choses pour ces personnes. C'est pour ça qu'elle s'est engagée. Elle pensait que quand on aura le pouvoir, on pourra agir en faveur des faibles. Mais lui, ce n'était pas sa préoccupation. Ce qui l'intéressait, c'était la montrer à la foule. Il ne s'intéressait qu'aux intérêts des Yadavs, sa propre caste. Chaque année, par exemple, il organisait un énorme festival dans sa propre ville, qui est considéré comme le plus extravagant des festivals. S'il est capable de dépenser autant d'argent pour ça, pourquoi n'est-il pas capable d'en faire autant pour le bien public? Par exemple, construire des routes pour améliorer la vie des gens? Mais c'est une tradition en Inde de promettre des grands chantiers, comme par exemple le nettoyage du pays, puis de tout se mettre dans la poche. Comment va-t-on pouvoir changer les choses avec de telles pratiques? Avec des chefs politiques aussi corrompus, on n'arrivera à rien.
Mes frères, nous sommes en lutte aux côtés des pauvres, des opprimés. Sans cesse, partout, l'injustice sévit. Pour les pauvres, il n'y a pas de justice. Quand ils élèvent la voix pour revendiquer leurs droits, ils sont traités de bandits, de criminels, de n'importe quoi. Mes frères, cela fait 40 ou 45 ans que notre pays a obtenu son indépendance. Mais nous ne sommes toujours pas libres. Nous continuons à patauger dans la boue de l'esclavage. Aucun gouvernement ne nous a libérés de l'esclavage. Au moment des élections, pour avoir nos voix, ils sont pleins d'égards et de promesses. Mais une fois les élections finies, on en revient toujours au point de départ. Choisissez bien votre leader. Préoccupez-vous de votre propre bien. Choisissez le candidat qui défendra vos intérêts et chassez les autres à grands coups de pied. N'ayez plus peur. Ne vendez pas votre honneur, votre dignité. Quel que soit le parti au pouvoir, souciez-vous de vos propres intérêts. Nous aussi, nous voulons des emplois. Nous aussi, nous voulons des quotas dans la fonction publique. Nous voulons avoir les mêmes droits que d'autres. Votez pour un gouvernement qui nous les donnera. Ne vous laissez pas faire. Si quelqu'un ose lever le doigt sur une de vos sœurs ou sur une de vos filles, coupez-lui la main. Oui, si quelqu'un porte la main sur une femme, coupez-lui les mains. N'ayez pas peur. C'est le gouvernement central, ce parti qui règne depuis 1947, qui engendre le terrorisme et le banditisme. Mais il en accuse les gouvernements régionaux issus de l'opposition pour les casser. Mes frères, il faut rester unis, forts, organisés. Choisissez bien votre candidat, celui qui vous défendra. Les autres, chassez-les à grands coups de pied. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je l'ai accompagnée lors d'une campagne électorale. Et un soir où nous étions assis ensemble à discuter, elle m'a dit la déception qu'elle éprouvait vis-à-vis de Mulayam Singh et des autres hommes politiques. Elle n'était pas heureuse parce qu'ils la considéraient comme une chose présentable. Elle disait qu'ils me traitent comme un objet jetable, comme une attraction que l'on présente à la foule pour gagner des voix, et puis c'est tout. Elle était vraiment furieuse car elle avait un vrai problème de santé, mais il avait prévu toute une tournée de campagne électorale pour elle. Et elle m'a avoué qu'elle était presque morte de douleur. C'était vraiment très difficile d'aller faire des discours, retourner dans la voiture, refaire de la route, pour refaire un discours à un autre endroit et à un autre endroit. Mais elle lui disait, s'il te plaît, grande sœur, Encore un, s'il te plaît. Elle était frustrée par tout ça et se sentait exploitée. C'est là qu'elle a commencé à parler de bandits urbains. Ces bandits m'ont kidnappé et maintenant ils me demandent une rançon pour ma libération. C'est une inversion très intéressante. Elle était sous l'emprise de ses chefs politiques. C'est ainsi qu'elle analysait le côté pragmatique de la politique.
Bataille pour le pouvoir en Inde. Parmi les nouveaux députés qui siégeront au Parlement indien, figurera Phulan Devi. Son histoire n'est pas banale. Surnommée la reine des bandits, elle va passer de la prison au Parlement. Ralph Pinto.
Avant de devenir la reine des bandits, elle aura subi la loi des plus riches parce qu'elle est née au sein d'une caste inférieure. L'histoire de Phulan Devi, c'est une tragédie digne du cinéma indien qui s'en est d'ailleurs emparé. Elle est mariée à l'âge de 11 ans. Elle est enlevée par des bandits, elle en devient le chef. Et au passage, elle va être battue, violée par des êtres supérieurs, sortie des hautes castes. Elle finira par forger sa propre légende pour avoir abattu 22 agresseurs. Et comme au cinéma, le front ceint d'un bandeau, la cartouchière sur la poitrine, elle se rend pour passer 11 ans en prison. Et comme l'histoire doit bien se terminer, on lève l'accusation, elle écrit une autobiographie, on tourne un film sur sa vie et elle se fait élire au nom de la justice pour tous.
Merci Ralph Pinto. Et puis, ironie de l'histoire, Phulan Devi, pour se faire élire, a battu démocratiquement un représentant d'une haute caste de propriétaires terriens.
Quand elle a été élue membre du Parlement, je me suis sentie vraiment heureuse. C'était le monde à l'envers de voir la même Phulan Devi se déplacer sur les routes, escortée par les policiers, les mêmes policiers qui la recherchaient des années auparavant. J'étais heureuse de la voir capable de mener la danse avec tous ces gens du gouvernement. Une fille qui ne savait ni lire ni écrire. Et elle continuait à distribuer plein de cadeaux aux pauvres, de la nourriture, des couvertures, des saris. Et au village, elle a fait reconstruire le temple. Mais malheureusement, la façade n'est pas terminée.
Quand son livre a été publié, son éditeur l'a invitée en France. Ils avaient prévu pour elle une Mercedes limousine. Dans ma vie, je n'en avais vu qu'une seule fois, en Inde. Et c'était celle du président de la République. On roulait dans Paris, je ne me souviens plus exactement du quartier, mais soudain, Phulan a repéré un marché sur une place, avec plein d'étals de fruits et de légumes. Et de sa vitre, tout à coup, elle a remarqué des melons d'eau.
Des karbouzas.
Allons chercher un karbouza. Hey, chauffeur, arrête-toi. Elle m'a expliqué que c'était exactement ces melons qu'elle faisait pousser dans son village. Elle est sortie de la voiture, en a acheté un, et elle est remontée. Bon, où est le couteau? Je lui ai répondu, je suis désolé, je n'en ai pas. Mais comment je vais faire pour le manger? Le chauffeur qui observait la scène avait un couteau suisse. Il lui a dit, madame, j'en ai un. Il lui a donné le couteau et là, il est resté bouche bée. Elle a ouvert le melon dans la voiture. J'ai vu la tête du chauffeur totalement désemparé. Que faire? Comment l'arrêter? Et elle, comme une typique villageoise, elle s'est régalée. Plus tard, avec quelques journalistes, nous l'avions emmené en haut de la tour Eiffel. Phulan, qui avait grandi dans un village reculé de l'Inde, qui avait vécu la prison, lorsqu'elle est arrivée en haut, elle était vraiment impressionnée. Oh, comme Paris est une ville riche, tout est propre ici. Je suis heureuse de voir qu'il n'y a pas de pauvres. Des journalistes en ont fait une blague. Et le lendemain, les journaux ont titré en gros
«
Phulan n'a pas vu de pauvreté du haut de la tour Eiffel ». Ça, c'était Phulan Devi, à Paris.
Si vous l'aviez vue, vous auriez été surpris. Surtout quand vous pensiez à la reine des bandits, même si le film représentait une femme grande et forte. À l'époque où je l'ai rencontrée, elle était presque frêle, petite, très petite. Et franchement, quand vous la regardiez, vous ne pouviez pas vous imaginer la fameuse reine des bandits. Tout ce que l'on peut s'imaginer d'un tel personnage ne correspondait vraiment pas à ce qu'elle dégageait. Je m'appelle Ranjana Kumari. J'appartiens à la même région que Pulan Devi. Et lorsqu'elle est devenue membre du Parlement, j'ai eu l'opportunité de voyager avec elle. Comme vous le savez, malheureusement, elle a été instrumentalisée par des hommes politiques qui voyaient en elle la possibilité de gagner les votes de sa caste. D'un autre côté, je peux vous dire que dans la région, elle a fortement œuvré au développement des écoles, car elle accordait beaucoup d'importance à l'éducation.
I must tell you a very small story about my travel with her. I think that
laissez-moi seulement vous raconter une anecdote au sujet de mon voyage avec elle. Cela vous permettra de comprendre un peu qui elle était, sa personnalité. Nous devions prendre un avion pour Patna. Elle avait beaucoup de bagages avec elle et j'étais juste derrière. On prenait le même vol. Alors je lui ai proposé de l'aider à porter ses bagages. Mais elle a refusé mon aide. Elle a porté ses valises jusqu'à l'avion et s'est assise juste devant moi. Et j'étais vraiment très curieuse, comme beaucoup d'entre nous. Je voulais tellement comprendre qui était cette femme. Donc, je l'observais depuis ma place. L'avion a décollé et les hôtesses ont commencé à nous servir un petit déjeuner. Et elle a voulu se servir du couteau et de la fourchette. Mais c'est quelque chose qui semblait compliqué pour elle. Elle fait tomber sa fourchette. Elle la ramasse. Elle tente de s'en servir à nouveau et la fourchette tombe encore. À ce moment-là, ça l'a vraiment mise en colère. Elle a donné un énorme coup de pied et la fourchette s'est retrouvée au bout de l'avion tout à l'avant. Ce jour-là, j'ai pu ressentir la force de son caractère. Elle ne supportait pas que quelque chose lui résiste, lui échappe. Donc la fourchette s'est retrouvée au bout de l'avion.
Doumet Singh.
Sa circonscription était dans un triste état. Vous savez, notre pays est libre depuis 68 ans. Et il y a encore une quinzaine d'années, les gens vivaient comme à l'époque des tribus. Il n'y avait rien, ni route, ni eau, ni électricité, ni école. Il y avait des villages auxquels on ne pouvait même pas accéder. Et surtout pendant la mousson, personne ne pouvait en sortir pendant 15 jours de suite. On avait de l'eau jusqu'à la taille. Si quelqu'un tombait malade, il était sûr de mourir sur place. Et côté éducation, rien. Dans des villages comme ça, elle a fait faire des écoles, des routes pour y accéder. Elle a fait acheminer l'électricité. Donc, c'est pour les plus pauvres, dont tout le monde se fichait, qu'elle a offert.
Et ça me fait penser à quelque chose. Quand vous voyagez dans l'Uttar Pradesh, la région de Pulan Devi, dans l'esprit des femmes de cette région, quand vous parlez avec elles de Pulan, vous pouvez ressentir à quel point les femmes reconnaissent et admirent ce qu'elle était. Cette région regorge de gens comme ça, ce genre de bandits. Et beaucoup d'histoires relatent la force, le caractère et les valeurs de ces gens. Il y a même tout un répertoire de chansons que les femmes ont l'habitude de chanter. Il m'est parfois arrivé de passer des soirées là-bas, où l'on diffuse de la musique. C'est comme une boîte de nuit en pleine campagne. Et quand on entend ces chansons, il y a une telle énergie dans les paroles, tant de contestation contre les injustices. Et je pense quelque part que Pulan Devi, elle aussi a été influencée par cette culture.
J'ai suivi son ascension politique et ses frasques, parce qu'en tant que députée, elle pouvait être complètement fantaisiste dans ses actions. La caractéristique de Pulan Devi au niveau politique, c'est qu'elle était haïe par tous les intellectuels, qui la trouvaient vulgaire. Ils n'aimaient pas Pulan Devi, alors qu'elle ne l'était pas. Elle était probablement moins qu'eux.
Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Pulan Devi a vraiment crever une sorte de mur d'ignorance énorme de la part des élites, en tous les cas, et des gens qui habitaient les villes, puisque Fulan est une paysanne de basse caste, très pauvre. Et le film de Shekhar Kapoor a vraiment créé une sorte de prise de conscience, un peu comme le viol de 2012, si vous voulez, de la situation extraordinairement difficile de ces femmes. quand elle a été élue au Parlement. Cette élite s'est quand même extraordinairement désintéressée d'elle, s'est moquée d'elle, ne l'a pas trouvée assez chic, assez bien articulée, etc. Je veux dire, les préjugés de caste en Inde sont quand même très très forts. En tant qu'héroïne de film, elle était très intéressante. En tant que députée, elle ternissait, si vous voulez, la communauté des députés par son langage, sa mise, etc. Les féministes, démocrates laïques, celles que j'ai beaucoup fréquentées et que j'aime beaucoup, avaient une aversion pour Phoolan Devi quand même assez grande, parce qu'elle n'était pas cultivée, elle n'avait aucune raison d'être députée. On pensait bien sûr qu'elle était députée pour des raisons obscures et non valables. Et personne n'a suivi de très près, finalement, le travail qu'elle a pu faire dans sa circonscription de Mirzapur. Et apparemment, elle a fait un travail formidable autour du travail des enfants, autour du travail des femmes. Elle s'est vraiment occupée des femmes. Et elle était, en fait, tout à fait efficiente, semble-t-il, dans son travail de députée.
J'étais dans un taxi au fin fond du Rajasthan, donc avant les attentats du 11 septembre et un petit peu avant ou après l'assassinat du commandant Massoud, je crois. Le chauffeur de taxi a haussé le son de la radio et puis on s'est arrêté et je lui ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a dit « Phoolan Devi vient d'être assassiné. »
Elle était entrée dans la légende comme meurtrière et comme défenseur des opprimés. Elle s'en est allée aujourd'hui abattue de 3 balles en pleine tête, tirée par un groupe d'hommes armés ce matin à New Delhi.
J'ai décidé d'enquêter sur elle à partir de son assassinat.
À l'annonce de sa mort, la chambre basse du Parlement a ajourné sa séance en signe de deuil, Jean-Piel.
L'Inde est un pays qui compte quelques maîtres et des millions d'esclaves, avait-elle pour habitude de dénoncer. Bien évidemment, Phoolan Devi n'avait pas que des amis. Les circonstances de sa mort à 38 ans ne pourront qu'ajouter à sa légende.
Je me souviens avoir ressenti comme une espèce de choc électrique de cette femme que j'aimais beaucoup, bien que je ne l'ai rencontrée que 3 heures, mais que j'aimais beaucoup parce qu'elle avait produit sur moi une impression très forte.
On ne peut pas s'imaginer toutes les horreurs que les hommes lui ont fait subir. Elle ne voulait plus qu'aucune autre femme n'ait à supporter ce qu'elle a vécu. C'était son souhait, son vœu le plus cher. Et contrairement au commun des mortels, elle n'avait peur de personne. Même ce matin du 25 juillet 2001 où elle a été tuée, la première balle a touché son garde du corps. Et au lieu de fuir, elle s'est confrontée aux agresseurs, sans armes. C'est pour ça qu'elle a été assassinée. Quand elle était dans la jungle, elle était armée. Personne n'osait la défier.
En Inde, 2 jours après l'assassinat de la reine des bandits, Phoolan Devi, la police vient d'interpeller un suspect, un étudiant qui aurait avoué avoir participé au meurtre. Le jeune homme aurait voulu se venger du massacre de Bemail il y a 20 ans, massacre au cours duquel Phoolan Devi et ses hommes avaient tué 21 membres d'une caste supérieure.
Vous savez, la situation des femmes n'a jamais été égale à celle des hommes dans la société. Que ce soit dans la jungle, dans la prison ou quand elle s'est engagée en politique, les hommes n'ont jamais accepté Phoolan comme leur égale. Si elle a été assassinée par des Thakurs, ce n'était pas pour se venger d'elle, en tant que simple ennemi de leur caste, mais parce que c'était une femme. Ils enviaient sa popularité, d'autant plus que c'était une femme qui venait d'une basse caste et qui ne savait ni lire ni écrire. Ils ne supportaient pas qu'une femme comme ça soit si directe. C'est parce qu'elle a eu le courage de prendre la parole et c'est à cause de sa liberté de ton qu'elle a été assassinée. Pour moi, les raisons de son assassinat sont avant tout des raisons politiques.
Phoolan Devi a été assassiné par un jeune homme qui s'était introduit dans son entourage via l'une de ses meilleures amies, Umaka Shyap. C'était un petit peu sa confidente, elle la considérait comme une petite sœur. Et l'assassin, qui était un jeune Rajput originaire de Rorki, au nord de l'Uttar Pradesh, s'appelle Sher Singh Rana, et venait d'une famille très hindouiste et rigoriste. Je ne sais pas si toute la famille de Sher Singh Rana est fanatique, mais lui, on peut dire que c'était un fanatique, oui.
On a posé le fusil sur l'épaule de Sher Singh Rana. Mais il y a d'autres hommes derrière le meurtrier. Il y a beaucoup de facteurs qui me font penser qu'il s'agit d'un complot politique. Elle avait réussi de grandes choses à Mirzapur et c'était insupportable pour les chefs de son parti et pour l'opposition car c'était leur fief électoral. Et Pulan Devi, il devenait de plus en plus influente auprès des gens modestes. Il y avait une énorme pression de la part de la communauté Thakur. Ils étaient morts de jalousie. Plusieurs gros poissons sont impliqués dans le meurtre. Quand j'ai témoigné à la cour et que j'ai dénoncé l'absence, puis l'arrivée tardive des policiers et des secours, alors que le poste de police se trouve au bout de sa rue, quelques temps après, des policiers sont venus chez moi et m'ont menacé directement. Arrête de dire que la police ne fait pas son travail. Ta sœur a été tuée et toi, tu n'es rien. En une seconde, on te règle ton compte. Déjà, dans le temps au village, quand ma sœur subissait des atrocités, on nous disait « Qui êtes-vous ? » Des petits riens. Et maintenant, après avoir été membre du Parlement, ça continue. Qu'est-ce qu'on en conclut ? Que des gens comme nous, nous sommes des bêtes. On nous traite comme des animaux.
Je pense beaucoup à elle. Souvent, je la sens tout autour de moi. Elle est avec moi, on va ensemble, on travaille ensemble. Et soudain, elle m'appelle « Amma, Amma ». Vous comprenez ? Je sens sa présence. Je me souviens surtout après son arrestation. On a passé tant de temps ensemble.
Je crois à celui qui a souffert pour les pauvres. Je crois à celui qui a milité pour les pauvres. À celui qui a sacrifié son corps pour les pauvres. Et je crois donc à toute personne qui a fait ces sacrifices, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit la déesse Durga, que ce soit Bouddha, que ce soit le Guru des Sikhs, Guru Nanak. La personne peut appartenir à n'importe quelle religion. Je crois à toutes les religions. Je crois donc à la personne qui a donné son corps pour les pauvres, qui a milité pour les pauvres.
Quand Pulan était petite, elle chantait avec sa petite sœur Ramkali. Elle chantait Kajari, des chansons romantiques. Elle n'était pas quelqu'un qui cherchait le conflit pour le conflit. Tout le monde l'aimait. Dans le village, à la maison, au temple, elles chantaient toutes les deux. Moi, je n'ai jamais chanté, encore moins depuis la mort de Pulan. Mais c'est grâce à elle que je suis respectée aujourd'hui, dans le village, dans la société. La vie a changé pour moi. Je vis en paix grâce à ma fille Pulan Devi.
Moi, Pulan Devi, de la Jaune au Parlement.
Merci à Moula, Muni, Shuba, Shiv Narayan Devi, Vijay Kranti, Kiran Bedi, Umed Singh, Dimitri Friedman, Martin Van Berkens et Ranjana Kumari. Avec les voix de Nathalie Kanoui, Mylène Wagram, Nathalie Dwong, Christine Bernard, Rafik Zénine, Akshay Bakaya et Christelle Richol-Labou. Les extraits du livre « Moi, Pulan Devi, reine des bandits » édité par Bernard Fixot. Attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Documentation, Marine Decamp et Virginie Gresset. Coordination, Irène Omelianenko. Traduction, Vijay Kranti. Prise de son, studio et mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Julie Navarre, soutenu par la bourse SCAM, Brouillon d'un rêve. Réalisation, Jean-Philippe Navarre.